Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour un numéro que nous allons dédier à l'encyclique Laudato Si, dont nous célébrions le 24 mai, le 10e anniversaire de la parution, quelques semaines après la mort de son auteur, le pape François. Ce texte avait eu un grand retentissement à l'époque de sa publication. Qu'en reste-t-il 10 ans après? On en parle dans quelques instants avec mon invité. Et mon invité est un grand connaisseur et vulgarisateur de l'encyclique Laudato Si, Fabien Revol, que je salue et remercie de s'être rendu disponible pour cette émission.
Merci, bonjour à tous et à toutes.
Vous êtes théologien, philosophe, directeur du Centre Hélène et Jean Bastère à Berganti dans le Lot, et vous êtes également, entre autres, enseignant invité aux facultés Loyola à Paris et chercheur associé au département de recherche du Collège des Bernardins à Paris. Beaucoup de nos auditeurs n'ayant sans doute qu'une connaissance partielle, voire très partielle, du contenu de l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune, soyons précis et il faut donner le titre complet. Est-ce que vous pouvez nous en résumer le contenu et le message général? Ça nous ramène d'abord, il me semble, à un cantique de saint François d'Assise.
Oui, tout à fait. C'est le pape François se met dans le sillage de saint François d'Assise, qui avait été déjà proclamé saint patron des écologistes en 1979 par le pape saint Jean-Paul II. Et pour lui, la figure de saint François d'Assise est une figure qui lui fait travailler l'unité de sa vocation de pape au service des plus pauvres, au service de la paix, au service du soin de la création. C'est un peu sous ces trois angles en fait qu'il a un petit peu ramassé son projet de ministère. En tout cas, c'est comme ça qu'il en témoigne quand il dit pourquoi il explique son nom. Et donc, effectivement, saint François d'Assise est omniprésent dans cette encyclique. En fait, il commence avec lui, mais on le retrouve à plusieurs moments charnières de sa réflexion. Ici, au début de l'encyclique Laudato Si, les mots même Laudato Si sont en fait les mots qui commencent le cantique des créatures, ou cantique du frère Soleil, qui a été composé par François il y a 800 ans, puisqu'on célèbre aussi cette année les 800 ans du cantique de frère Soleil. Donc un patronage et une orientation. Et dans le chapitre, dans le paragraphe 10 de l'encyclique Laudato Si, dans l'introduction, le pape François prend vraiment saint François d'Assise comme un modèle pour vivre une écologie intégrale. Et pour cela, il explique que François a vécu intensément et en harmonie selon chacune de 4 relations: la relation à Dieu, la relation à lui-même, la relation aux autres, en particulier les plus pauvres, et la relation à la nature, à la création. Et ce sont ces 4 relations qui vont parcourir en fait l'ensemble du texte de Laudato Si. On va les retrouver 4 fois dans l'ensemble du texte. Donc on peut dire que la pensée de François vient structurer le texte de Laudato Si autour de ses relations, d'autant plus que le pape François se met à l'écoute des sciences de l'écologie, qu'il renseigne sur une façon de penser le réel, une façon de penser le fonctionnement du monde sous l'angle justement des relations. Quand le pape François dit « tout est lié », tout est lié, ça veut dire que tout existe dans le monde parce qu'il est relié à autre chose, où rien n'existe dans le monde s'il n'est pas relié à autre chose, justement. Ou alors ça n'existe pas s'il n'est pas relié. Donc la relation est une dimension essentielle. Ce qui l'amène à comprendre qu'on ne peut pas séparer les choses de notre existence. Et un des points fondamentaux de la pensée de l'écologie intégrale, c'est justement l'indissociabilité des problèmes écologiques avec les problèmes sociaux. Et ça, vraiment, on peut dire que c'est un point charnière dans la pensée du pape François, qui s'appuie sur son expérience, une expérience de terrain, lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires et qu'il se promenait le dimanche dans les bidonvilles de sa cité. Il prend conscience de l'interconnexion des problèmes. Les personnes les plus pauvres qui vivent dans la misère sont également celles qui vivent dans des environnements écologiques les plus délabrés. Et il se dit que finalement, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de structurel et de structurellement déficient dans la façon d'organiser la société. Nous vivons dans une société qui produit du déchet. société qui produit du déchet tant humain qu'écologique. Et du coup, si c'est les mêmes mécanismes qui produisent les deux, la grande misère sociale et la crise écologique, il faut aller chercher une cause profonde aux deux crises qu'on ne peut pas séparer. Donc ça fait partie des points forts de cette encyclique, hein, qu'il ramasse sous une expression qui n'est pas de lui, mais du théologien Leonardo Boff. Il faut se mettre tant à l'écoute de la clameur de la terre que la clameur des pauvres. Ça, c'est un lieu vraiment structurant pour François.
Oui, c'est-à-dire que pour lui, l'approche écologique ne peut pas être dissociée de l'approche sociale, elle ne peut pas être dissociée des réalités humaines, celles qui sont directement vécues par tout un chacun, et notamment par les plus pauvres. Est-ce qu'avant lui, d'autres papes avaient évoqué ces sujets-là dans des encycliques précédentes? Est-ce que c'est quelque chose qui avait déjà été intégré dans la doctrine sociale de l'Église, par exemple?
Alors, le thème écologique, sous l'angle de la prise de conscience de la crise écologique, intervient à partir du début des années 70, dans l'enseignement de Paul VI. Ce qui n'est pas anodin, parce que on commence à parler de crise écologique au début des années 1960 et progressivement la prise de conscience se répand à la surface de la Terre, en particulier dans les pays développés. Il est normal qu'au bout d'un certain temps, le pontife romain en prenne une certaine mesure, et notamment dans les discours qu'il adresse à la FAO à Rome, donc une institution onusienne. Il interpelle les responsables internationaux sur la capacité de l'être humain à faire face aux conséquences du mésusage de la puissance technologique humaine. La crise écologique est pensée comme une conséquence d'un manque de contrôle dans l'usage des technosciences. Donc ça, c'est la base, une des bases de la critique qu'on va retrouver chez François dans Laudato si. Ensuite, avec Saint Jean-Paul II, c'est toujours dans la doctrine sociale de l'Église que l'écologie intervient, et notamment autour des années 1990-91, avec deux textes qui sont, à mon avis, principaux et fondateurs dans la pensée de Jean-Paul II sur l'écologie. C'est le message pour la journée de prière pour la paix du 1er janvier 1990 et l'encyclique Santissimus Annus de 1991, dans lequel Jean-Paul II a réfléchi sur les liens entre la paix, la justice et la sauvegarde de la création, qui reprend le thème du rassemblement de Bâle qui avait eu lieu en 1989, le rassemblement œcuménique qui avait eu lieu exactement sur ce thème. Et en 1991, Jean-Paul II développe un concept qui lui est propre, qui est celui d'écologie humaine. C'est-à-dire, il est nécessaire, quand on veut s'intéresser aux questions d'écologie, de commencer par la question de la dignité de la personne humaine et d'envisager toutes les problématiques écologiques sous ce prisme. Et c'est dans cette direction et dans ce sillage que le pape Benoît XVI va s'inscrire, en particulier avec sa belle encyclique Caritas in Veritate en 2009, qui est la première encyclique qui comporte un chapitre dédié à l'écologie. Donc on voit comment se structure progressivement le rapport entre dignité de la personne humaine et défense, protection de la création. Le catéchisme de l'Église catholique, d'ailleurs de 1992, comporte également des thèmes qui sont repris par François sur le respect des valeurs propres des créatures, voulues par Dieu, par création, pour lutter contre l'idée que le christianisme serait un anthropocentrisme sauvage et colonisateur, qui serait la cause de la crise écologique. Non, on a déjà en germe cette idée que la dignité de la personne humaine ne justifie pas la destruction de la création, et au contraire, c'est en prenant soin de la création que l'on respecte et que l'on protège justement la dignité de la personne humaine. Donc j'aime bien voir ces développements des prédécesseurs de François comme des préparations à la venue de l'encyclique Laudato si, qui pour moi arrive vraiment comme un fruit mûr. J'aime bien cette métaphore parce que le fruit, on le voit qui surgit, qui sort de la fleur après au printemps, et qui grossit et qui change de couleur, alors que pendant les mois qui ont précédé, c'était la fleur, c'était la dormance du bourgeon, mais tout était là et les choses n'attendaient plus qu'à se développer. C'est ça en fait le sens de la tradition vivante dans l'Église catholique, c'est qu'il y a un développement de la doctrine qui s'appuie sur ce qui précède, mais qui génère une certaine diversité, parfois un peu d'innovation, mais d'une innovation qui est parfaitement traditionnelle, j'ai envie de dire.
Dans Laudato Si, quels étaient les principaux enjeux qu'avait identifié le pape François pour l'avenir de la planète, mais aussi pour l'avenir de nos sociétés?
Alors, l'enjeu principal qui justifie la prise de parole de François et l'écriture de ce texte, c'est de proposer un paradigme, c'est-à-dire un cadre de pensée nouveau et enraciné dans le christianisme qui va enrayer les effets du paradigme ancien, qui est un paradigme qui organise la modernité, la civilisation occidentale industrialisée, et qui est génératrice de crises écologiques. Donc c'est le paradigme technocratique qui est visé, c'est-à-dire le paradigme de la puissance dans l'usage de la technique pour la maîtrise et la domination par la puissance donc de la nature, de ses lois et de ses contraintes. Et la manière dont ce paradigme est en collusion avec un autre volet de sa nature, hein, c'est le paradigme techno-économique qui asservit le projet de technoscientifique pour générer de la croissance économique, du profit, et avec l'idée que c'est par les relations commerciales, économiques et par la consommation des biens matériels que la société pourra accéder au bonheur, avec comme effet secondaire la consommation de toutes les ressources naturelles et la destruction de la planète. Donc ça, c'est un premier enjeu. Il faut trouver des ressources de sens pour remplacer un univers culturel et mental qui est néfaste à la bonne santé de la maison commune. Deuxième enjeu, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la non-séparation entre les questions environnementales et les questions sociales, parce qu'il y a une seule et même crise qui est à l'origine des problèmes économiques et sociaux et qui est à l'origine donc de la crise écologique qui dégrade et détruit les écosystèmes. Donc ça veut dire que la solution doit prendre soin des deux. Le pape François prend très au sérieux la pensée écologique scientifique, non seulement dans ses résultats, mais dans son fonctionnement même. Vous savez, la définition de l'écologie qui a été proposée par un naturaliste allemand en 1866, Ernst Haeckel, c'est la suivante, hein, c'est la science qui s'intéresse aux relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Donc le concept de relation est central. Et cette définition est reprise dans Laudato Si presque mot pour mot, au paragraphe 138 du chapitre 4. Et le pape a pas mis de note de bas de page pour dire qui citait. Mais c'est là où on voit qu'il développe un nouveau paradigme, parce que d'après cette définition de l'écologie, ça nous amène à voir le monde comme un tissu de relations, une étoffe d'interactions, d'interdépendance, dans lequel nous sommes investis, et même nous sommes plus qu'investis, puisque nous sommes compris dedans, nous sommes indissociables de ce tissu, et ça doit nous emmener à une compréhension renouvelée de nos liens avec le vivant, avec les êtres non humains, qu'ils soient vivants même ou pas vivants. Et c'est ça qui doit nous orienter vers de nouveaux modes de vie, en prenant compte donc de la solidarité qui naît des liens d'interdépendance. Et dernier enjeu, qui est un enjeu anthropologique, c'est que effectivement l'écologie intégrale, c'est pas les animaux ou les plantes qui se la posent comme question, c'est vraiment une question d'être humain qui a conscience d'habiter dans un monde, qui a conscience de ses responsabilités. Eh bien, il s'agit de prendre soin de la famille humaine en prenant soin de ses conditions d'existence, c'est-à-dire la planète. Et pour prendre soin, il faut entrer dans un nouveau régime de relations, il faut sortir de la production-consommation, qui est source de destruction environnementale. Et le pape François veut nous aider à rentrer dans le régime de la fraternité. Fraternité, mais pas uniquement entre les humains. Ça, c'est un thème qui va développer dans Fratelli Tutti après. Mais une fraternité qui doit s'appliquer à toutes les créatures. Et c'est là qu'on retrouve saint François d'Assise. François comme le modèle de celui qui a voulu instaurer des relations fraternelles entre les créatures. Les instaurer, non, c'est en fait les reconnaître parce qu'elles existent déjà, parce qu'elles existent dans le fait qu'on est créé par un Dieu qui est Père. Le fait d'être créé par Dieu qui est Père, ça doit nous faire retrouver le sens des relations fraternelles entre les créatures. Et la finalité de ces relations, c'est la communion, communion universelle. Donc l'enjeu de l'écologie intégrale, au final, c'est rien de moins que cela, instaurer un régime de communion dans l'ensemble de la création.
Alors le pape François, après la publication de Laudato Si en 2015, n'en est pas resté là. Il a publié d'autres grands textes qui sont venus prolonger le message de son encyclique pour promouvoir le développement de l'écologie intégrale dans l'Église et dans le monde. Est-ce qu'il y en a qui ont été vraiment particulièrement marquants et qui ont pu peut-être un peu modifié, en tout cas précisé, ce qu'il avait dit dans Laudato si.
Oui, je pense qu'il est vraiment important de ne pas s'arrêter à Laudato si quand on veut comprendre l'ensemble du paradigme de l'écologie intégrale. Parce que, en fait, même on peut dire que Laudato si, c'est l'étape 2 dans son déploiement de programme pastoral, pontifical. Déjà, il faut comprendre ce que toutes les conséquences et les enjeux d'Evangelii Gaudium pour la mission de l'Église, d'évangélisation, de l'annonce de l'Évangile, dans lequel il annonce un certain nombre de principes d'action. Et ces principes d'action, il les met en application dans Laudato si, ce qui nous fait comprendre que pour lui, parler d'écologie intégrale, c'est une manière d'annoncer l'Évangile. Et ça, c'est pas rien comme action. C'est pas uniquement une gestion technique de l'environnement. Non, en prenant soin de la maison commune, en prenant soin de changer de mode de vie, on annonce l'Évangile dans cette perspective écologique. Et ça, c'est quand même bien de le saisir. Alors, le pape François a écrit beaucoup de textes, un certain nombre d'entre eux sont très importants, mais d'autres le sont plus dans la perspective de l'écologie intégrale. Et je voudrais citer d'abord l'exhortation apostolique post-synodale Querida Amazonia, donc chère Amazonie, en 2019, l'encyclique Fratelli Tutti en 2020, et l'exhortation apostolique aussi Laudate Deum en 2023, qui vient un peu conclure, si vous voulez, le projet, avant donc le décès du pape en 2025. Et on peut dire que les deux textes de 2020, en fait, Querida Amazonia est sorti en février 2020, alors que le synode avait eu lieu en 2019, il s'agit de montrer que les principes de l'écologie intégrale sont applicables dans des cas particuliers, et en l'occurrence, l'Amazonie, la zone amazonienne, qui est l'objet donc de ce synode des évêques, présente une multitude de problématiques qui sont très complexes et qui impliquent justement les dimensions culturelles, sociales, spirituelles et écologiques des populations qui y vivent. Et donc, pour le pape François, c'est un terrain d'expérimentation absolument formidable, parce que pour lui, ça permet de recouvrir presque la quasi-totalité des problématiques qu'on pourrait rencontrer dans les autres régions du monde, avec l'idée de qui peut le plus, peut le moins. Et en fait, il a voulu s'attaquer au problème pour lui qui était le plus complexe, avec les outils de l'écologie intégrale, en disant, bon, si on peut le faire et si on y arrive à chercher des pistes de solutions avec l'écologie intégrale pour cette région, alors on y arrivera pour les autres régions aussi. Faites pareil chez vous. C'est ça un peu ça le message, si vous voulez, de Querida Amazonia, avec une idée complémentaire qui est comment est-ce qu'on peut se mettre à l'écoute de la clameur de la Terre. C'est pas facile, en fait, quand on est un être humain qui parle un langage d'être humain et on voudrait comprendre ce que ça peut signifier pour du non-conscient ou de l'inerte, du minéral ou un système comme la Terre. Qu'est-ce que ça veut dire souffrir? Qu'est-ce que ça veut dire apporter un cri de souffrance? Eh bien, dans Laudato aussi, il y avait les sciences qui permettait de faire ça, c'est le chapitre 1 de Laudato si. Et dans Querida Amazonia, c'est la poésie. La poésie et la culture en général, la culture littéraire en particulier, avec la poésie. C'est pour ça que c'est très intéressant au niveau méthodologique. Querida Amazonia est structurée sur un plan poétique autour du thème du rêve. Et il développe cette métaphore du rêve tout le long du texte pour nous faire comprendre un certain nombre de problématiques. Donc ça, pour moi, c'est un apport important qui met en avant la place de la culture dans la manière dont nous sommes à nous emparer des questions écologiques, et en particulier des cultures des peuples premiers, qui sont ainsi valorisés, parce qu'ils le sont par ailleurs dans la spiritualité de l'écologie. Et donc le pape François fait un travail d'inculturation très important dans cette direction. Dans Fratelli Tutti, la direction est peut-être plus simple, parce que c'est développer les relations entre les humains au niveau de la fraternité interhumaine, comme mise en valeur d'une des relations de l'écologie intégrale, la relation aux autres, avec comme point d'attention la question de la paix, la question comment lutter contre la guerre et se débarrasser de celui qu'est la guerre, comment organiser la charité au service des plus pauvres, comme lieu de développement des quatre relations de l'écologie intégrale. Et dans Laudate Deum, on peut dire que là, le pape François s'énerve un petit peu, parce qu'on est à la veille de la COP28 à Dubaï, et le pape François sent que les engagements de la société et la communauté internationale ne sont pas suffisants. Il faut faire quelque chose pour réveiller les sensibilités, les consciences. Et donc, François sent le besoin d'écrire un complément avec Laudate Deum, dans lequel, en fait, il se met en colère, il n'est pas content, il nous exhorte. Et en particulier ceux qui font de l'obstruction, même chez les catholiques, qui seraient écolo-sceptiques ou climato-sceptiques. Et il s'appuie sur, encore plus que dans l'audat aussi, sur les résultats du groupe international d'études pour l'évolution du climat, le GIEC, pour étayer ses propos. Et il propose donc de renforcer l'engagement avec des pistes plus concrètes pour une révolution culturelle. Il invite à la révolution culturelle dans l'audat Deum. Voilà.
Eh bien, nous allons faire maintenant une pause musicale dans cette émission. Après tous ces rappels, le pape François était un mélomane averti dont on connaît quelques-unes des œuvres favorites, celles qu'il aimait réécouter régulièrement. Et parmi celles-ci, il y avait la Grande Messe en ut de Mozart. Je vous propose de vous en faire entendre un extrait au titre de circonstance en lien avec le thème même de cette émission. C'est le Laudamus Te.
Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne avec Fabien Revol, théologien, philosophe, directeur du Centre Hélène et Jean Bastère à Berganti dans le Lot pour la suite de ce numéro de Vivante Église consacré, je le rappelle, au 10e anniversaire de la parution de l'encyclique Laudato Si, publiée par le pape François le 24 mai 2015. En première partie d'émission, nous en avons rappelé le message et nous allons maintenant évoquer avec vous le bilan que l'on peut faire de la réception de Laudato Si 10 ans après sa publication, que ce soit au sein de l'Église ou en dehors, est-ce que l'effet, la prise de conscience provoquée dans l'opinion mondiale par la parution de Laudato Si sont toujours d'actualité aujourd'hui ?
Alors, on peut dire qu'il y a eu un effet de retombée, de soufflet, en fait, par rapport à l'engouement qui avait été créé en 2015 et dans les années qui avaient suivi. On en parle pratiquement plus de Laudato Si à l'échelle, enfin, en dehors de l'Église aujourd'hui, mais justement, un des enjeux, comme on va le voir, c'est que c'est pas un silence qui est assourdissant, c'est malgré tout parce qu'il y a un travail de fond qui se fait. En plus, aujourd'hui, les observateurs et beaucoup de mes collègues se plaignent d'un double facteur, c'est-à-dire non seulement au niveau politique international en ce moment, avec un enchaînement d'événements depuis la Covid, on a l'impression que l'écologie est passée au deuxième rang, voire plus loin encore, avec de forts reculs par rapport à certains engagements internationaux ou nationaux. Et aussi, malgré tout, chez les chrétiens, on est 10 ans après et il y a moins d'enthousiasme. On en parle effectivement moins dans les églises. Mais je dirais qu'on en parle différemment et de manière plus ciblée. Mais il y a un effet de mode, on va dire, qui est un peu passé dans un premier temps.
Et puis, à contrario, il y a quand même des choses, des initiatives qui ont eu lieu depuis la parution en 2015, et notamment au sein du monde chrétien. Il y en a eu même beaucoup. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il en reste ? Vous parliez des fruits de Laudato Si. Quels sont pour vous les principaux ?
Je pense que déjà, il faut noter qu'en 2019, l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes s'est saisie de l'encyclique Laudato Si de l'écologie intégrale pour en faire un sujet de travail pendant 3 ans. Donc ça, c'est assez remarquable que les évêques puissent s'emparer d'un sujet comme ça. Donc ça montre que c'est un sujet d'importance qui concerne la vie chrétienne et la vie de l'Église dans son ensemble. C'est pas uniquement, encore une fois, un sujet technique. Bon, on peut se dire que le livre qui est sorti de ces travaux-là aurait pu être fait différemment pour qu'il soit plus à visée pratique, mais il a le mérite au moins déjà d'exister. Donc ça, c'est assez remarquable, c'est-à-dire que tous les évêques en France, déjà, ne peuvent pas faire semblant comme si ces problématiques n'existaient pas. Ils ont tous été interpellés, en tout cas ceux qui étaient en charge à l'époque. Ce qui a pour conséquence qu'on peut dire que pratiquement tous les diocèses de France, il y en a encore qui n'en ont pas, ont aujourd'hui des responsables ou des référents à l'écologie intégrale. Il y en a, soit c'est une personne qui est nommée, soit c'est une personne entourée d'une équipe, soit c'est une équipe complète, soit c'est des prêtres, on trouve de tout, ça peut être des diacres permanents, ça peut être aussi des laïcs un peu spécialisés sur ces questions. Donc ça crée une communauté au niveau national de personnes qui ont cette charge de réfléchir à la mise en œuvre de l'écologie intégrale dans leur diocèse en France. Un des fruits aussi, à la fois au niveau national de la conférence des évêques de France, mais surtout dans une perspective œcuménique, c'est la mise en œuvre du label Église verte, qui a été inauguré au mois de septembre 2017. Donc on est à peine 2 ans après la sortie de Laudato Si, donc c'est quand même assez rapide, finalement, quand on prend la mesure de la vitesse de réaction des communautés ecclésiales en tant qu'institution. Et c'est assez rapide, en fait, avec des propositions, non pas simplement pour mieux trier ses déchets ou fermer le robinet ou éteindre la lumière, non. C'est une proposition d'analyse et d'organisation de la vie chrétienne, de la vie des communautés, sous l'angle de l'écologie intégrale. Ceux qui pensent que c'est simplement un aspect technique supplémentaire qui vient perturber la vie de la paroisse, c'est pas du tout normalement comme ça que ça a été pensé. Au contraire, c'est une aide à la mission de l'Église en prenant en compte ces différents aspects de sa vie, la dimension communautaire, la dimension matérielle, économique, la dimension pratique, organisationnelle, la liturgie, la catéchèse, etc. Donc c'est un outil intéressant, me semble-t-il. Il y a de plus en plus de communautés, alors il y en a qui arrêtent d'être labellisées parce que parfois c'est trop difficile ou il n'y a plus suffisamment de monde pour soutenir, mais ce n'est pas grave, le label continue à se développer. Et au niveau international, dès la sortie de l'encyclique Laudato Si, il y a un mouvement qui a été créé, c'est le mouvement des catholiques contre le réchauffement climatique. Et dans les semaines qui ont suivi Laudato Si, ce mouvement a été créé. Et 2 ans après, il a changé de nom pour devenir le mouvement Laudato Si. dont l'objet principal est de faire connaître Laudato Si et son message chez les catholiques en particulier, avec des antennes continentales, des antennes nationales. Donc l'antenne française est très vivante, avec une présidente très dynamique qui rassemble sa communauté très régulièrement sous la forme de visioconférences, qui organise des formations, qui incite ses animateurs à prendre des actions, faire des actions de plaidoyer auprès de leur communauté, auprès des élus aussi, auprès de d'ONG. Donc c'est très intéressant de voir ce mouvement se structurer. Alors récemment, on peut dire qu'un des fruits de Laudato Si, c'est le pape François qui l'avait lui-même enclenché pour l'Église universelle, c'est la transformation de la ferme de Castel Gandolfo en centre Laudato Si. Et ça, c'est un truc qui est resté secret pendant ces deux dernières années. Ça fait quelques semaines qu'on en entend parler seulement. Donc c'est la résidence d'été du pape, hein, c'est sa résidence secondaire de vacances, qui est une ferme aussi, et qui est en train d'être transformé en centre d'expérimentation de l'écologie intégrale et d'un centre de formation à l'écologie intégrale. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel comme proposition.
Oui,
et alors... à Rome, ils ont montré l'exemple très rapidement dès 2016 avec la mise en œuvre des différentes universités pontificales. Vous savez, il y a 10 universités pontificales à Rome, et toutes les 10, c'est la première fois dans leur histoire, elles se sont associées pour créer un diplôme, le diplôme conjoint d'écologie intégrale. Donc c'est assez étonnant de voir comment ce thème peut être fédérateur, comme il l'avait été pour l'œcuménisme en 2003, lorsque pour la première fois un pape et un patriarche œcuménique donc font une déclaration commune. Depuis le grand schisme de 1054, et ben c'est sur l'écologie que ça se fait. Donc c'est vraiment un signe fédérateur.
Voilà. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup d'écolieux, hein, je crois que c'est le terme chrétien, hein, le terme qu'il faut employer, qui se sont multipliés depuis la sortie de l'encyclique. Et il y a quelque chose aussi qui me semble important d'indiquer, c'est qu'il y a des fondations en France qui sont dédiées au financement de projets consacrés à l'écologie intégrale.
Oui, c'est une nouveauté de ces dernières années dont on peut se réjouir. C'est-à-dire, vous avez soit des entreprises, soit des collectifs chrétiens qui estiment que le sujet est suffisamment important pour qu'on organise des moyens du financement des projets d'écologie intégrale. Et donc là, j'ai la chance de participer au conseil d'administration de la Fondation du Cèdre, à Paray-le-Monial, pour justement essayer d'évaluer des projets qui nous sont soumis et qu'on peut financer. La communauté de vie CVX, donc initiative ignatienne, a lancé la fondation Amari Servir aussi. Et j'ai vu qu'il existait une fondation, un fonds de dotation pour l'écologie intégrale que je ne connais pas encore très bien, mais qui vont dans ce sens. Donc ça veut dire qu'il y a une mobilisation de laïcs face à l'importance des enjeux, quoi, de la diffusion de l'écologie intégrale dans la société. Et on citait la fondation du Cèdre parce que c'est une fondation d'entreprise qui commence à être un peu significative de ce qu'il y a des entreprises en France qui ont été séduites par le projet de l'écologie intégrale et de Laudato Si et qui veulent le prendre comme boussole pour leur activité économique. Et ça, c'est pas rien comme initiative, parce que c'est très engageant, c'est prendre des risques qui sont pas négligeables. Donc on peut saluer ces initiatives.
Oui, alors en vous écoutant, je me disais que tout de même, on peut avoir le sentiment que Laudato Si a vraiment changé les consciences et les comportements des chrétiens sur les questions écologiques, que nous sommes sans doute de plus en plus nombreux à nous considérer, plus ou moins consciemment bien sûr, comme des gardiens de la maison commune.
Oui, alors c'est vraiment le chemin de chacun est très différent et singulier. Et les personnes arrivent à cette prise de conscience avec des chemins très variés. Et donc c'est très difficile de généraliser, mais vous voyez, il y a une paire d'années, un sondage a été diffusé dans les médias catholiques pour dire que encore 56% des catholiques français ignoraient l'existence de Laudato Si. C'est quand même assez une belle performance 7 ans après la sortie de l'encyclique. Enfin, une belle performance plutôt en négatif, qui a beaucoup déçu beaucoup de monde. Et donc on se dit que la révolution culturelle, même si elle est engagée petit à petit de manière souterraine dans les institutions, au niveau de la vulgarisation et de la connaissance générale du public, il y a encore un gros défi à faire, quoi, avec des besoins de formation. Et la multiplication des écocentres spirituels va aider à ça, la multiplication des centres de formation comme celui que j'essaye de diriger aussi va dans ce sens-là, d'une sensibilisation du public. Mais le travail reste très important, si vous voulez, et les contextes géopolitiques n'est pas favorable, en fait.
Comme souvent dans ces cas-là, l'exemple vient d'en haut, la bonne parole vient d'en haut. Est-ce que vous pensez que le pape Léon XIV va s'inscrire dans le sillon de son prédécesseur François en défendant, en promouvant l'écologie intégrale? Est-ce que c'est une préoccupation forte pour lui?
Oui, alors forte, je ne sais pas encore. J'attends de voir des gestes significatifs de sa part, des textes significatifs. En tout cas, il a été très encourageant et on peut dire qu'il a bien compris qu'on vient de terminer la semaine Laudato Si, de célébration des 10 ans de Laudato Si, puisqu'il a émis un ou deux messages d'encouragement de certaines communautés qui s'étaient rassemblées à cette occasion. Et donc, c'est encourageant. Après, de manière prophétique, s'il a pris ce nom de Léon XIII, de Léon XIV, justement, pour faire la suite de Léon XIII sur les nouvelles questions sociales, qui est l'inaugurateur de la doctrine sociale de l'Église sous l'angle formel. On ne peut qu'espérer qu'il va se mettre à la suite du paradigme de l'écologie intégrale. Ce qui serait dommage, c'est que le pape Léon XIV ne considère l'écologie intégrale que comme un tiroir avec une étiquette qu'on tirerait quand on tire d'autres tiroirs, comme la question de la paix, la question de l'économie, la question des plus pauvres, etc. Parce que François, lui, il a vraiment tout intégré dans l'ensemble. L'écologie intégrale, c'est pas un tiroir, c'est le bureau dans lequel il y a des tiroirs. Et donc, pour moi, le risque, ça serait d'un retour en arrière si on ne considérait plus l'écologie que comme un de ces tiroirs parmi les autres.
Et pour rester dans notre région, et plus particulièrement dans le Lot, au centre Hélène et Jean Bastère, que vous dirigez à Berganti, c'est pas très loin de Cahors, entre Cahors et Cajar, sur la rive gauche du Lot, qu'est-ce que vous proposez pour l'étude de l'écologie intégrale?
Alors, nous proposons différents cycles de formation, avec des temps de cycles de conférences en ligne, sur une thématique d'année. On a un campus Laudato Si qui est une introduction à l'écologie intégrale sur 4 rencontres sur les 4 relations de l'écologie intégrale. Et nous sommes partenaires aussi avec le diplôme interuniversitaire d'écologie intégrale qui a été créé en 2025 par les universités catholiques de Lille, les facultés aussi de Loyola de Paris. On va recevoir la première promotion cet été à Berganti pour une première session de formation à l'écothéologie, la théologie de l'écologie. Donc ça, c'est sous l'angle de la formation. On va inaugurer aussi une session de formation dédiée aux évêques, prêtres et diacres, les ministres ordonnés de l'Église catholique, pour aborder des questions spécifiques de l'écologie intégrale qui les concernent dans leur ministère. Je suis content, j'ai déjà 3 évêques qui sont participants de la session, donc c'est sympa. Et donc ça, c'est sous l'angle de la formation. On a toute une série d'activités de célébration, des journées spirituelles, où on touche un public beaucoup plus local, où on marque un peu le calendrier liturgique avec des pratiques d'éco-spiritualité. Et puis, nous organisons un gros travail de recherche. On étudie l'écologie intégrale en travaillant des thèmes de recherche comme on le fait à l'université, avec une grosse activité de publication dans différents supports universitaires ou de vulgarisation, avec une bonne bibliothèque sur place qui nous sert en particulier pour moi, pour mes travaux de recherche personnelle en théologie de l'écologie.
On peut dire que vous êtes un lieu de ressourcement à la fois spirituel et intellectuel.
Tout à fait, oui, exactement. Et on essaye aussi dans les différentes dimensions de la personne, avec prochainement l'ouverture d'un accueil à dimension sociale pour des personnes en difficulté, en particulier qui souffrent d'éco-anxiété de manière un peu trop aiguë, et puis aussi des parents en difficulté d'accueil de l'enfant. Voilà, donc on va essayer d'honorer aussi la clameur des pauvres sous cet angle-là.
Eh bien, merci beaucoup, Fabien Revol, pour tous ces rappels concernant le message et les fruits de Laudato Si, 10 ans après la parution de l'encyclique du pape François. Et merci de nous avoir présenté vos activités au centre Hélène et Jean Bastère À Berganti, dans le Lot, je précise pour nos auditeurs que vous disposez d'un site internet et que pour ceux qui veulent s'informer sur ce que propose ce lieu dans le détail, eh bien je les invite à se connecter à l'adresse www.centrehelene-jeanbaster.fr. Ce numéro était animé par Éric Dupri. À la réalisation, Coraline Camebrac. Merci d'être fidèle à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.